Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Voilà, c'est le générique qui déboîte. C'est comme ça que disent les jeunes, je les entends dans la rue. Bonjour Marine.
Bonjour.
Donc c'est Cinérama sur Divergence, émission hebdomadaire de cinéma. Alors, aujourd'hui, on avait prévu plus, mais finalement, il y aura un peu moins. Hein. T'as oublié tes copies chez toi, c'est ça hein.
Oui.
Donc pas de Gus Van Sant.
Mais maintenant, ça sera pour la semaine prochaine.
Mais de quoi tu vas nous parler quand même?
Je vais vous parler de Présumé coupable. Et on va un petit peu se pencher sur le problème des titres de films qui sont traduits.
Oui, ça nous a été soufflé par notre invité de la semaine dernière. Hein, Michel Princey.
Ouais, il y a beaucoup à en dire, donc je pense même qu'on va, continuer au cours des prochaines émissions.
Ce sera un rendez-vous hebdomadaire.
Voilà, la chronique et titre
de film. Si on ne peut pas le tenir, ce sera un rendez-vous trimestriel. Quant à moi, je vais vous parler de Pain Noir. C'est un film espagnol qui a reçu 9 Goya, quand même, c'est pas rien. Il est passé déjà au Diagonal cet été, mais moi j'étais absent cet été quand il est passé. Et il revient sur les écrans montpelliérains à l'Utopia, c'est une bonne chose. On parlera aussi de la semaine allemande. Il y a 4 films allemands qui sont programmés au cinéma Diagonal. C'est dans le cadre de la 9e semaine allemande organisée par la maison d'Heidelberg. Et il se trouve que Divergence est partenaire de cette semaine allemande. Et donc j'ai demandé à Nicole de cette même maison d'Heidelberg de nous parler de cette programmation allemande. L'occasion de faire un quiz ensuite sur les films allemands. Voilà, j'ai choisi 5 films allemands. Et je ne sais pas si ce sera facile ou pas, mais ce sera l'occasion pour vous, auditeurs, de jouer avec nous. Et puis, on retrouvera aussi l'agenda en toute fin d'émission. Mais on va commencer avec La Fée. Alors ça, c'est un film que je n'ai pas pu voir quand il est sorti, puisqu'il y a eu des petits soucis avec la salle du Diagonal qui est fraîchement équipée de numérique. Alors, on recevra Antoine du Diagonal la semaine prochaine.
Hein, ouais.
Tu as réussi.
Normalement.
Tu as réussi quand même à obtenir un petit rendez-vous pour qu'ils viennent dans les studios de Divergence expliquer sur le bien fondé d'avoir un équipement numérique. Alors, il paraît que tout s'est arrangé maintenant. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas eu de problème.
En effet. Moi aussi, les deux derniers films que j'ai vus, il n'y a pas eu de souci.
Voilà, tout le monde est content et radieux quand il sort du cinéma Diagonal. Donc, La Fée est déjà sortie depuis mi-septembre. C'est le 3e long-métrage tourné par la triplette que forment Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy. Alors, les deux premiers longs-métrages intitulés L'Iceberg, tourné en 2005, et Rumba, réalisé en 2008, mettait déjà en scène les mêmes personnages fictifs, Dom et Fiona. Alors si je n'ai pas vu L'Iceberg, j'avais beaucoup apprécié Rumba, l'histoire d'un couple d'enseignants, lui prof de sport atypique, elle prof d'anglais délirante, deux amoureux de la danse de salon qui malheureusement sont séparés par un accident de voiture. Un film à la Tati fait de bout de ficelle où le langage fonctionne à l'économie, les situations sont burlesques, absurdes, avec une bonne dose de merveilleux et de poésie. Bref, une vraie fraîcheur dans le cinéma qui s'enlise parfois dans les scénarii convenus. Et puis tiens, on écoute un extrait du cours d'anglais de Rumba.
My dog likes rice.
My dog likes rice.
My dog smiles when he sees rice.
My dog smiles when he sees rice.
Around and round his ration of rice, my dog rowdily runs.
Around and round his ration of rice, my dog smiles when he sees
rice. Good.
Alors pourquoi parler de Rumba? Déjà parce que si vous ne l'avez pas vu, eh bien il est disponible en DVD, mais la ressemblance avec La Fée est surtout frappante. C'est la même recette, toujours un couple, Fiona et Dom, toujours des situations qui les empêchent de vivre sereinement leur histoire. Mais si Rumba insistait sur le couple qui était de chaque plan et qui rencontrait parfois quelques personnages, ici le couple est confronté à davantage de personnages secondaires et l'histoire prend un peu plus d'épaisseur que dans Rumba. Dom est un grand gaillard, tout sec, et est employé comme veilleur de nuit dans un hôtel. Fiona, elle est fine, elle est rousse, elle arrive pieds nus dans cet hôtel et se présente comme une fée, et va même plus loin puisqu'elle propose à Dom, qui n'en croit pas un mot, de faire 3 vœux. Un événement inattendu et trivial va les faire basculer tous les deux dans une histoire incroyable. Et comme c'est une histoire incroyable, eh bien, ils se permettent tout, de jouer avec le vieux cinéma où la course-poursuite en voiture est du toc, puisqu'on voit bien que les acteurs jouent devant un écran qui passe des images de route, de vitesse. De même, quand ils plongent dans la mer, ils se retrouvent au fond de l'eau, dans un décor carton-pâte, et se lancent dans une chorégraphie toujours burlesque, mais jamais ridicule. Alors ce qui change ici aussi par rapport à Rumba, c'est qu'il se retrouve dans la ville, celle du Havre, avec son port, sa plage où arrivent les égouts. Qu'il se retrouve dans un bar au doux nom de l'amour flou, si flou que ce qui s'y passe à l'intérieur n'a rien de bien réaliste. Alors parmi les personnages secondaires, on aperçoit aussi comme un fil rouge trois garçons noirs dont le rêve est de partir en Angleterre. Des rêves, des vœux, réalisables ou non, il y en a dans la fée. Il y a du rire, de la simplicité, des trucages enfantins, des fantasmes enfin réalisés, et puis des envies contrarié. C'est un univers donc burlesque, proche de Tati, Chaplin, Laurel et Hardy. On vous demande de déposer votre sens critique à l'entrée de la salle, de vous laisser bercer par les invraisemblances, de vous laisser porter par le merveilleux et la poésie d'un monde qui n'existe pas, mais de prendre aussi toutes les petites piques adressées au monde dans lequel on vit, car La Fée est un film contemporain, moderne, avec les moyens de l'artisanat, ce qui le rend presque indémodable. Donc, autant dire que je le conseille chaudement, ce film. Alors, il m'a fait beaucoup moins rire que Rumba, j'avoue. Enfin, je trouvais que le rythme de Rumba, la première demi-heure de Rumba, était irrésistible. Là, on rit moins, mais on rit un peu plus souvent. Disons que je trouve que le scénario est bien mieux amené et que les situations burlesques s'enchaînent mieux. Voilà.
D'accord.
En tout cas, c'est un très bel ouvrage. Et puis voilà, il y a plein d'inventivité. Ils s'embêtent pas. Ils font des trucages qui se voient à 10 km, mais en même temps suffisamment voilés pour que ce soit appréciable et drôle. Et puis voilà, ils ajoutent aussi de la danse parce que ce sont deux danseurs, je crois, à l'origine. Voilà, donc ils ajoutent des petites chorégraphies comme ça, complètement enlevées. L'occasion pour nous de... Alors je peux pas passer la bande-annonce parce que comme c'est un film burlesque, c'est très visuel. Et là, alors j'ai retenu, il y a souvent un thème musical qui revient, mais je ne l'ai pas recherché. Mais comme j'avais bien aimé la musique de Rumba et que je trouve qu'elle envoie aussi bien finalement que le nouveau générique de Cinérama, on fait la petite pause avec la musique extraite de Rumba. Donc c'était le deuxième film du duo Dominique Abel et Fiona Gordon, aidé de Bruno Romy. Extrait de Rumba, donc, de ces fameux réalisateurs Dominique Abel, Fiona Gordon, qui sortent sur les écrans La Fée. Ça se passe donc du côté du Diagonal, encore cette semaine.
Et moi, je vais enchaîner sur un autre film nettement moins féerique. On va parler de Présumé coupable, qui est déjà sorti depuis 2 semaines sur vos écrans. Alors, l'histoire, comme tout le monde le sait, est tout simplement tirée de la pire erreur judiciaire de la fin du XXe siècle. Car il faut bien se rappeler que même si l'on s'insurge en France de l'affaire Troy Davis, de tous les défauts de fabrication de la justice américaine, notre système à nous est loin d'être sans faille. Alors l'affaire d'Outreau, elle est du nom de cette petite ville du nord de la France où se sont produits les faits. En effet, un enfant a été violé par ses propres parents et il a par la suite accusé une quinzaine d'autres personnes de pédophilie sans aucune preuve. Confié à un jeune juge trop ambitieux qui compte bien faire ses armes avec cette affaire retentissante, la mise en examen de tous les suspects va virer au cauchemar malgré le discours incohérent des accusateurs. Eux-mêmes coupables des pires atrocités, les suspects sont d'entrée de jeu présumés coupables et écopent immédiatement d'un traitement sans aucune faveur. Ainsi, Alain Maréco, dont on suit l'histoire à partir de, son arrestation, va subir garde à vue, interrogatoire et emprisonnement, comme s'il avait d'ores et déjà reconnu sa culpabilité.
Je vais voir. Pourquoi, Snoopy ?
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qui se passe ?
Vous êtes bien, monsieur Maréco ?
Oui, c'est moi, pourquoi ?
Commissaire Dury. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Nous allons procéder à une perquisition.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez une commission rogatoire ?
Fabrice Burgot, juge d'instruction.
Maman !
Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Qu'est-ce que vous me reprochez exactement ?
Vous et votre épouse êtes accusés de viol sur mineur de moins de 15 ans.
Mais lâchez-la !
Je t'aime, je t'aime, je t'aime. T'inquiète pas, ils sont trompés. Ils sont pas s'arranger.
Viens, viens, viens.
Je t'aime, ma puce, je t'aime ! Est-ce que je vais enfin savoir précisément pourquoi je suis là ?
Alors, vous refusez toujours d'avouer ?
Évidemment. J'ai rien à voir avec toutes ces horreurs.
Je comprends rien de ce qui m'arrive.
J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Vous êtes en train de commettre une énorme erreur judiciaire.
Les enfants, c'est toute ma vie. Pourquoi j'irais faire des saloperies comme ça ?
Il n'y a aucune preuve matérielle, seulement des allégations.
Non, non, je ne peux pas retourner là-bas, je vous en supplie, je ne tiendrai pas.
Faut que vous teniez jusqu'aux assises, je vous promets qu'on gagnera.
J'ai rien fait de tout ça.
Alors, le film de Vincent Garenc, adapté du livre écrit par Alain Maréco lui-même, est bien sûr entièrement dévoué à son personnage principal. Il en épouse la cause et appuie sur tous les aspects douteux de cette enquête bâclée. Avec un excellent rythme et une mise en scène qui parvient à s'échapper un peu de l'académisme habituel du film de procès, le film réussit à ne pas être qu'un simple écrin pour l'interprétation de Philippe Torreton. Car comme prévu, la performance de l'acteur éclipse absolument tout, que ce soit ses précédents rôles ou ses partenaires dans le film. Présent d'un bout à l'autre, on lui doit en grande partie la réussite et l'efficacité du film, parfait pour donner chair à un homme dont on ne connaît finalement que l'image médiatique. Il incarne dans toutes ses souffrances celui qui n'était jusque-là qu'un nom imprimé dans les journaux. Le calvaire qu'Alain Maréco va endurer aurait presque semblé excessif s'il avait été écrit dans un scénario. Au cours des 3 ans que dureront son emprisonnement, il perdra la garde de ses enfants, son cabinet d'huissier et son travail, sa femme qui divorcera et sa mère qui en mourra. Alors bien sûr, on ne peut s'empêcher de faire un parallèle avec Omar Mathieu de Roche Dizem, dont on avait parlé en juin. Tous les deux tournent autour d'un fait divers marquant et d'une erreur judiciaire grave. Tous les deux défendent jusqu'au bout l'innocence de leur personnage et tous les deux bénéficient d'un acteur principal qui semble porter à chaque image une étiquette César. Mais Présumé coupable prodigue une tension et une angoisse bien plus prenantes. Le réalisateur parvient à saisir le spectateur et à l'entraîner dans la tourmente avec son personnage, ne lui laissant jusqu'à la conclusion, aucun répit. Il s'apparenterait même davantage à Hunger, ce film de Steve McQueen, sur le leader Bobby Sand, qui avait protesté contre son incarcération en arrêtant de se nourrir, et ce jusqu'à en mourir. Alors, hormis la similarité des faits racontés, les deux films filment cette grève de la faim de la même manière, comme un point culminant où se confondent la mort et le réel. Si ce n'est pas franchement ce qu'on ira voir pour se détendre non plus, il a du moins le bon goût de ne pas se contenter de son contenu malsain pour attirer l'attention du spectateur en osant une mise en scène largement au-dessus de la qualité téléfilm. Donc c'est encore visible un peu partout.
Oui, effectivement, je le conseille quand même. C'est au Gaumont Multiplex, c'est aussi au Ciné Mistral de Frontignan, c'est à l'Athénée de Lunel, c'est au Cinéma Vogue du Gros du Roi et c'est au Molière de Pézenas. Voilà, donc, et je vais même rajouter les cinémas Luteva à l'Odev, voilà, comme ça, on sera exhaustif. Et puis au Diagonal, forcément, ça passe encore. Voilà.
Oui.
Tu fais référence effectivement au film de Steve McQueen, alors. Forcément, c'est l'homonyme de l'acteur.
C'est Steve McQueen 2, normalement.
Hunger, qui était un film très prenant, très, très physique, hein, où l'acteur a perdu forcément du poids dans, hein, pendant qu'il a fait le tournage, puisqu'il faisait une grève de la faim. Est-ce que là, c'était le cas pour Toretton ? C'est vraiment,
oui, c'est, il a vraiment perdu 30 kilos. Et c'est vrai que les scènes où on les voit se laisser mourir de faim jusqu'au moment vraiment où... Il en meurt presque. Les scènes sont tournées d'une manière très similaire. On ressent la même angoisse. C'est assez semblable. Et c'est autant réussi d'un Claude, d'ailleurs.
Ouais. Après, il y avait la lumière particulière du film Hunger. Hein. Mm. Moi, ça m'avait saisi aussi, cette mise en scène bien particulière, cette lumière très, très froide, et puis tout ce qui se passe à l'intérieur de cette prison en Irlande. Enfin, voilà. J'imagine que là, c'est un peu différent. La prison à la française est peut-être un peu plus accueillante, entre guillemets.
Ouf.
Non. J'espère, si parce qu'il y avait quand même des sales coups, hein, qui se passaient dans le film d'Hunger. On voyait des sales coups.
Oui, oui,
hein,
oui.
On voyait de la grosse baston, quand même. Hein. Voilà. Donc Toretton, futur césarisé, c'est ça ?
Je pense, oui.
Il y a des chances.
Oui, oui, oui.
Et pourtant, Jean-Pierre Mocky, hein, disait que Toretton était un acteur de merde. Hein,
voilà. Ah bon ?
Eh oui, il a dit ça, ouais. Ouais, j'ai pas pensé, j'ai pas repris en fait l'extrait, hein, où il disait ça lors d'une émission de télévision, Jean-Pierre Mocky, face à Toretton, hein, d'ailleurs. Pas gêné. Alors, on poursuit Cinérama en musique cette fois-ci.
Oui, on va passer un petit David Lynch, Good Day Today.
I wanna have a good day.
Yeah, Marine. Voilà, donc c'était David Lynch en fait. Hein. C'était pas un petit morceau comme ça de dance techno pour une soirée gay. Hein. Non, pas du tout. C'était bien David Lynch qui non seulement est donc un cinéaste plutôt talentueux, qui est un peintre bon, plutôt. Enfin bon, voilà. On en pense ce qu'on en veut. En tout cas, il peint beaucoup. Hein. Il y avait eu une expo à Paris et puis Martin. Nous en avait parlé, et puis en plus, donc, il compose de la musique.
Voilà, en plus.
Mais de manière un peu plus rythmée et soutenue que John Carpenter, hein, aussi, qui jouait du synthé sur ses films. Alors, maintenant, nous allons parler du cinéma allemand et de la 9e semaine allemande, dont Divergence FM est partenaire. C'est organisé par la maison de Heidelberg. Alors, il y a des expositions, il y a la Deutsche Mobile qui va venir du côté de Montpellier hein, pour vous faire aimer l'allemand, la langue allemande. Et puis, il y a tout un volet cinéma, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors, il y avait déjà un ciné-concert, c'était ce lundi, c'était le dernier des hommes. Film de Friedrich Murnau, hein, qui a été donc mis en musique par Martial Romenko, qui a l'habitude de faire ça au Diagonal, qui joue de plusieurs instruments. Bon, moi, j'ai rencontré, alors j'y suis pas allé à la projection, mais il se trouve que j'ai rencontré ceux qui en sortaient et ils en étaient extrêmement ravis. Mais il y a une toute autre partie aussi de la programmation avec quatre films qui sont méconnus et c'est Nicole de la Maison d'Heidelberg qui nous en parle.
Dans le cadre de la semaine allemande, il y aura quatre films allemands projetés. Ce sont des films qui s'adressent à un public jeune. Donc c'est une tournée qui s'appelle Ciné Allemand qu'on a intégrée dans notre semaine allemande pour essentiellement des séances scolaires, mais il y aura également des séances publiques. Et on a voulu des films qui vont des écoles primaires jusqu'au lycée, jusqu'à l'âge adulte. Donc on a un premier film qui est basé sur un livre de Erich Kästner, Die Konferenz der Tiere, Animaux et Compagnie, qui s'adresse aux tout petits et qui traite un thème autour de l'environnement. Un deuxième film pour les jeunes, 6e, 5e, Le Club des Crocodiles ou Vorstadt Krokodil, un film aussi tiré à partir d'un livre jeunesse qui a eu un très grand succès en Allemagne autour d'une bande de jeunes. Et pour ce film-là, il y a le sujet comment intégrer des jeunes handicapés. Donc ça, c'est un peu le thème central de ce film. Un troisième film pour des jeunes un peu plus grands déjà, à partir de la 4e, Krabat. Pour dire peut-être en deux mots, on pourrait dire que c'est le Harry Potter allemand, donc avec quand même une spécificité germanophone, donc il reste ancré aussi dans la culture allemande. Aussi un film tiré d'un roman, donc là vous voyez, on a voulu aussi continuer cette année phare autour de la littérature allemande qu'on a eue avec la Comédie du Livre au mois de mai. Et un quatrième film, Allemagne, Bienvenue en Allemagne, qui est un film qui a connu un très grand succès en Allemagne. C'est une comédie qui traite de façon très légère un thème sérieux, l'immigration, et qu'on a trouvé très approprié pour justement parler de ce thème sous un autre angle avec les lycéens.
Ça aurait été trop simple peut-être de repasser Soul Kitchen, notamment, hein, qui a été un des grands succès du cinéma allemand en France.
Disons que c'est un film qui a déjà quelques années. Effectivement, c'est un grand film. Fatih Akin, le réalisateur, c'est toujours une des figures phares du cinéma allemand. Mais on a voulu montrer aussi des films qui n'ont pas encore été diffusés en France, qui sont très récents et qui attirent aussi un public. C'est des films qu'on ne peut pas encore acheter sur DVD, donc pour les faire sortir des établissements, pour faire sortir les gens, pour qu'ils aillent au cinéma.
Alors ça fait 8 ans que vous vivez à Montpellier, vous, est-ce que vous voyez beaucoup de films allemands sur les écrans? Quelle est la différence par rapport à l'Allemagne? Quand vous étiez en Allemagne, est-ce que déjà vous voyez beaucoup de films allemands? Voilà, comment vous les voyez en France?
Ben, disons qu'il y a déjà une certaine sélection parce que tous les films allemands ne passent pas la frontière. Ça a des inconvénients parce qu'on ne peut pas voir tout ce qu'on aimerait voir, mais en même temps, c'est souvent aussi un gage de qualité parce que ce sont en général les meilleurs films qu'on diffuse à l'étranger, comme pour les livres aussi, les meilleurs qu'on traduit. Et en général, voilà, quand il y a un film allemand qui passe ici dans un cinéma, oui, je saisis l'occasion d'aller le voir, surtout parce que je m'occupe aussi du ciné-club à la maison de Heidelberg, où on montre avec un petit décalage, bien sûr, les films après. Donc c'est aussi une occasion de les découvrir très rapidement.
Est-ce que vous pourriez nous trouver peut-être ce qui distingue le cinéma français du cinéma allemand, hein, puisque vous avez vécu en Allemagne, vous êtes né en Allemagne et maintenant vous vivez en France depuis quelques années.
Question difficile. Difficile aussi de ne pas tomber dans les clichés. C'est vrai que quand on fait la programmation pour le ciné-club, des fois on se dit c'est quand même pas évident de trouver un film un peu léger. Et c'est aussi un peu la volonté qu'on a voulu pour en programmant Allemagne dans le cadre de la semaine allemande, c'est de montrer qu'il y a aussi des films légers qui existent en Allemagne, mais que ce ne sont pas forcément ceux qui sont toujours projetés en France. Donc je pense qu'il y a une certaine sélection aussi faite avant qu'ils passent la frontière. Donc, ça, c'est peut-être, du point de vue français, une des grandes différences.
Voilà, c'était Nicole de la maison de Heidelberg qui nous parlait donc de cette 9e semaine allemande du volet cinéma qui se déroulera donc à l'Utopia. Vous avez tous les horaires... C'est pas l'Utopia, c'est au cinéma Diagonal, voilà, merci. Donc vous avez forcément les horaires eh bien, sur le site du cinéma Diagonal et vous pouvez aussi aller sur www.maison-de-heidelberg.org. Alors Nicole disait une chose intéressante, hein, la sélection de films allemands qu'on trouve ici en France ne sont pas particulièrement joyeux. Alors nous allons jouer à un quiz et on va s'apercevoir effectivement que ce n'est pas forcément très joyeux. Alors c'est vrai que j'aurais dû avoir en tête cette petite phrase et essayer de trouver quand même des films un peu plus joyeux. Bon, il se trouve que le film de Fatih Akin qui est sorti l'an dernier, Soul Kitchen, était plutôt joyeux, hein, avec beaucoup
oui,
de rythme
au final,
et de la
il
musique.
Il était moins bon que ses autres films plus graves.
Plus graves, certes, mais bon, ça faisait du bien. Enfin voilà, il a voulu changer un peu de registre et aller du côté de la comédie. Alors il y a certains films qui sont des comédies, sans doute, mais c'est vrai qu'ils n'arrivent pas forcément en France. Ça n'intéresserait que les Allemands. En tout cas, on va jouer donc à un quiz, chers auditeurs. Il n'y a absolument rien à gagner, pas de panier garni, pas de place de cinéma, en tout cas pas pour l'instant, mais ça pourrait venir dans le cinéma. On commence avec le premier extrait et c'est plutôt facile.
Savais-tu par exemple que chez les artistes, on ne recense que 5 types de profils? Le tien par exemple, Dreyman, hein? C'est le type 4, hystérique, anthropocentrique. Il ne peut pas être seul, il faut qu'il parle, qu'il soit entouré d'amis. Avec lui, il ne faut en aucun cas arriver au procès. Jamais, ça ne le ferait que s'épanouir. Il faut que tout se déroule en prison, jamais rien de public. C'est comme ça qu'on peut en venir à bout. À l'isolement total, sans lui dire combien de temps ça va durer. Aucun contact avec personne, même pas les gardiens. Tout le temps de la détention. Tout en traitant très bien. Pas de tracasserie, pas de coups, pas de scandale. Rien sur quoi il puisse écrire par la suite. Et 10 mois plus tard, on le relâche. Par surprise. Il ne nous causera plus jamais de problème. Et tu sais pas la meilleure? La plupart de ces types 4 que nous avons conditionnés comme ça n'écrivent plus jamais de leur vie. Ou bien ne peignent plus, ou bien n'ont plus aucune activité artistique. Et ça, sans que nous exercions aucune pression, juste comme ça. Pour ainsi dire, en cadeau.
Alors, une réponse, Marine.
Vu le bruit de la machine à écrire en fond, je dirais La vie des autres.
C'est tout à fait La vie des autres de Florian Henkel, donc un film de 2006. Grand film, grand succès international, et puis qui parle de tout un pan de l'histoire, finalement, de la RDA, puisque là, on a un personnage donc, qui est membre de la Stasi, qui doit faire des écoutes sur un intellectuel, un metteur en scène de théâtre, et qui, au bout d'un moment, ne joue pas le jeu du système. Voilà, c'est le petit point dans l'engrenage de la Stasi. Et voilà, c'est une fin remarquable, un film plutôt bien fichu, que j'ai revu il y a pas longtemps, et j'avoue que voilà.
Oscar du meilleur film étranger, non?
Je pense.
Ça arrive pas souvent pour les films
allemands. Je pense qu'il a pu faire ça, oui. Voilà, donc La vie des autres, qui est disponible en DVD si vous ne l'avez pas vu, mais je suppose qu'il est déjà passé sur les écrans télévisés. Deuxième extrait. Alors là, on va aller un peu plus loin. Et voilà, donc Marine.
M le Maudit.
Voilà, ça a été trouvé aussi en régie par Bruno. Donc c'est M le Maudit, film de Fritz Lang, époque allemande. Film de 1932, donc l'histoire de ce sadique qui assassine les petites filles. Et forcément, la police est à ses trousses et il est démasqué à cause de cette petite chanson qu'il fredonne.
Oui, c'est la scène où il donne le ballon à la petite fille, non?
Oui, danke schön, la petite fille, elle part. Mais voilà, c'est le vendeur de ballons qui est important dans cette histoire. Troisième extrait.
Ce ne sera plus long. Eldorado n'est plus loin, j'en suis convaincu. Alors plus de vieux canons rouillés. Nous tirerons avec des boulets en or sur nos adversaires. Et toi, Okello, tu me serviras mes festins sur de grands plats en or. Et toutes nos vies seront changées par cette découverte. Nous aurons des fiefs, des provinces et aussi des femmes. L'homme accordera peut-être la liberté.
Nous ne devons pas oublier l'aspect le plus important de cette mission. Apporter la rédemption à ces sauvages.
Te voici bien avec une grande croix en or. Une croix en or incrustée de pierres précieuses. Pour remplacer la pauvre croix d'argent que tu as perdue.
Herzog?
Ah, on s'approche, Marine. Oui, Herzog.
C'est Herzog, c'est Aguirre?
C'est Aguirre, La colère de Dieu. Effectivement, un film de Werner Herzog de 1975 qui raconte, ça se passe mal d'ailleurs pour ces Espagnols qui sont en terre amazonienne et qui cherchent de l'or et ainsi de suite, et tout se termine.
Et le tournage avait été tout aussi apocalyptique apparemment.
Herzog fait des films assez radicaux, donc peut-être que le tournage s'en ressent.
Et ses acteurs étaient un peu psychotiques aussi, donc et ça se passait pas très bien.
Klaus Kinski qui joue le rôle d'Aguirre. Quatrième extrait.
Il ne s'agit que d'une commotion consécutive à sa chute.
Ma chute dans l'escalier était un succès total.
Vous prendrez bien un petit...
La version officielle fut désormais. Le jour de ses 3 ans, notre petit Oscar est tombé dans l'escalier de la cave. Il ne s'est rien cassé. Mais depuis ce jour, il n'a plus grandi, pas du moindre centimètre.
Alors ça, normalement, c'est... Enfin, voilà, ça pourrait être facile parce que...
Ah, c'est l'histoire du petit Oscar.
Voilà, le tambour, tout à fait. Film de Volker Schlondorf de 1979, l'histoire de Oscar donc qui refuse de grandir. C'est une vision implacable du monde des adultes dans les années 30 en Allemagne jusqu'à la guerre. Voilà, donc on voit défiler les premiers nazis. Film assez étonnant qui d'ailleurs
normalement il a eu à la Palme à Cannes ou quelque chose comme ça.
Ah ça je ne sais pas, c'est bien possible il a eu énormément de succès à sa sortie. Et en tout cas le réalisateur Schlondorf a retrouvé des chutes et il en a fait une nouvelle version donc qui fait 2h30 alors que l'initiale faisait dans les 2h10. Voilà, il a fait la version Director's Cut il y a peu. Le tout dernier extrait de ce quiz spécial film allemand est aussi normalement Un film que tout le monde connaît, c'est un film de 1987. L'extrait est très très long, mais je pense que cet extrait vaut dans la durée. Moi, c'est un de mes films allemands fétiches, j'ai envie de dire. On écoute ça et on se retrouve après pour la réponse.
Le soleil se lève à 7h22, se couche à 16h18, levé de la lune à 19h04, couché à niveau de la Havel et de la Spree. Il y a 20 ans aujourd'hui, un avion soviétique s'écrasait et disparaissait dans le lac Stossen. Il y a 50 ans, ont eu lieu
les Jeux Olympiques.
Il y a 200 ans, un Français, Nicolas-François Blanchard, survolait Berlin en bas.
Qu'est-ce que les réfugiés ont fait l'autre jour?
Et aujourd'hui, dans la Lilienthal chaussée, quelqu'un qui se promenait, peu à peu a ralenti le pas et a regardé par-dessus son épaule, dans le vide. À la poste 44, quelqu'un qui aujourd'hui veut en finir a choisi pour ses missives d'adieu différents timbres, un spécial sur chaque lettre. Il a rencontré plus tard sur la Marienplatz un soldat américain avec lequel, ce qu'il n'avait encore jamais fait depuis l'école, il a parlé couramment anglais. Dans sa cellule de Platzensee, un détenu, avant de se précipiter tête baissée contre le mur, a dit « maintenant ». Dans le métro station Zoo, à la surprise des voyageurs, le chef de car a crié « terre de feu » au lieu d'annoncer le nom de la station.
Joli.
Assis au pied de la colline, un vieil homme commentait l'Odyssée à un enfant. Et l'enfant qui l'écoutait a brusquement cessé de cligner des yeux. Et toi, qu'est-ce que tu as à raconter ?
Une passante qui a fermé d'un coup sec son parapluie et s'est laissée tremper. Ah, un écolier qui décrivait gravement à son maître comment les fougères sortaient de terre. L'instituteur sidéré. Une aveugle qui a cherché sa montre quand elle a senti ma présence. C'est extraordinaire de n'être qu'un esprit et de témoigner pour l'éternité de tout ce qui a trait à la spiritualité de chaque mortel. Mais parfois, moi, je me sens fatigué de n'être qu'un esprit. J'aimerais que ce survol éternel se termine enfin. J'aimerais sentir en moi un poids. Sentir que cette densité abolit l'illimité, me rattache au monde terrestre. J'aimerais à chaque pas, à chaque coup de vent, pouvoir dire « maintenant, et maintenant, et maintenant », au lieu de dire « depuis toujours ou à jamais ». S'asseoir à une table où des personnes jouent aux cartes, pour être saluées, d'un simple geste amical. Lorsqu'il nous arrive parfois de prendre part, nous ne faisons que simuler. Dans ce combat en pleine nuit, on a fait semblant, on a simulé une luxation de la hanche. Comment feindre d'attraper le poisson avec eux? Comment feindre de s'asseoir à la table où ils sont assis, de boire ou de manger en leur compagnie? Quand on fait rôtir des agneaux, quand on sert du vin dans les tentes du désert, enfin on simule. Sans vouloir tout de suite engendrer un enfant, planter un arbre, eh bien je serais déjà satisfait. Après une longue et pénible journée de travail, de nourrir le chat comme Philippe Marlowe. Avoir de la fièvre, qu'un journal noircisse mes doigts. Que ce ne soit plus seulement l'esprit qui nous exalte, que ce soit un repas aussi. Le dessin d'une nuque, une oreille. Mentir. Comment respire. Avoir la sensation en marchant que toute sa charpente avance à chaque pas. Chercher à deviner, ne pas tout savoir. Ah! Et oh, et aïe, avoir le droit de dire ça. Au lieu de oui et amen.
Oui. Et qu'il soit possible de s'exalter contre le mal. Et quand on passe à côté des humains dans la rue, exorciser leurs démons, les attirer à soi, et les chasser au fin fond de la terre. L'état originel, être un sauvage.
Et quelle satisfaction aussi d'enlever ses chaussures sous la table en douceur et d'agiter ses orteils, pieds nus. Ainsi.
Laissez faire. Restez seul. Laissez faire. Nous devons éternellement rester graves pour être des sauvages. Ne rien faire d'autre que regarder, certifier, conserver, recueillir, attester. Restez esprit. Repoussez toute promiscuité, se contenter des mots.
Regarde, un cabriolet.
On n'achète pas un truc pareil, on le fauche, sinon on se le fait faucher.
Imagine ça, non mais tu te rends compte, on ouvre le toit et on file loin du smog.
C'est une bagnole de Mac.
Très long extrait hein, dans Cinérama de ce film allemand de 1987, un film sur le désir et sur Berlin. Là, on entend justement eh bien, deux personnages qui disent qu'ils ne veulent plus être qu'esprit. Alors, ils veulent désirer maintenant.
Je sais pas.
Alors, je vais donner le titre, ça va faire une petite transition avec ce dont tu vas nous parler tout à l'heure. C'est Der Himmel über Berlin. Berlin même, le ciel au-dessus de Berlin, voilà. Alors le titre, forcément, allemand ne donne pas forcément d'indication, mais ce sont les ailes du désir de Wim Wenders, voilà.
En effet.
Eh oui.
Oui, le ciel au-dessus de Berlin, c'est un peu météorologique, c'était pas...
C'est vrai, mais bon, les Allemands sont comme ça, ils sont précis, hein, 'fin, puisqu'il y a des caméras effectivement flottantes hein, dans ce film. Donc, si ça s'achève ce quiz sur le cinéma allemand, il est évident qu'à chaque quiz, on aurait pu en choisir 5 autres films, donc on pourra revenir un peu plus tard dans la saison sur un autre quiz allemand. Alors donc, maintenant, Marine, tu vas nous parler...
Ben justement, des titres de films, oui. De la manière dont ils sont changés. Et il y aurait beaucoup à en dire, parce que donc, tout comme une affiche ou une bande-annonce, le titre sert bien entendu à attirer les spectateurs. Mais en même temps, le cinéma étant supposé être un art et non un simple objet de consommation, le titre se devrait aussi d'être un aboutissement de cette création. Or, ce n'est que rarement le cas, et les titres se retrouvent souvent amputés de leur sens premier, sacrifiés sur l'autel de la fréquentation des salles. Alors certes, on ne peut pas traduire mot à mot tous les titres, cela donnerait des intitulés peu engageants et pas très littéraires. Par exemple, si je te dis « conducteur de taxi ».
Ouais, bah non, ouais.
Ça serait la traduction de Taxi Driver,
oui,
ce qui est assez moyen quand même.
Oui.
Ou par exemple, un autre exemple, Pas de pays pour les vieux.
D'accord, oui.
Oui, ça serait la traduction de
ouais.
No Country for All Men.
Ouais.
Encore une fois, ce n'est pas très engageant, c'est pas forcément ça qui va attirer les spectateurs. Mais tout de même, la langue française est l'une des plus fournies en vocabulaire et nous ne sommes pas à court de belles expressions imagées pour rendre compte au mieux de l'âme d'un film. Et pourtant, non seulement les distributeurs ne se foulent pas à trouver des titres évocateurs en français, mais ils vont même jusqu'à remplacer un titre anglais par un autre titre anglais. Alors c'est simple, autant prendre le spectateur pour en demeurer jusqu'au bout et lui fournir un titre avec des mots anglais qu'il sera en mesure de traduire tout seul. À savoir, trip, bad, girl, American, bref, que des mots compréhensibles qui vont l'appâter. Ainsi, Very Bad Trip 1 et 2 s'intitulent en fait The Hangover, à la base, la gueule de bois. The Boat That Rock est devenu Good Morning England, Get Him Geek est devenu American Trip et Bring It On devient American Girls.
Ah oui.
Et au final, tous les titres se ressemblent et nous donnent l'impression que les mêmes films ressortent chaque année. Là, j'ai vraiment cité que quelques exemples, mais y en a des dizaines et des dizaines comme ça, quoi. Donc le plus significatif, c'est même l'emploi sans limite du mot « sexe » dans les titres. En effet, 9 films sur 10 qui sortent en France avec un titre utilisant le mot « sexe » n'a pas du tout le même titre en version originale. Alors, est-ce que c'est les anglophones qui sont puritains ou les Français qui ont l'esprit mal tourné ? L'année 2011 aura quand même battu un record. « Sex Friends »,« Sex entre amis »,« Sex Dance »,« Sexy Dance », pardon, « Sex List » et « We Want Sex Equality ». Vous n'avez que l'embarras du choix. À savoir que « Sex List » s'intitulait à la base « What's your number ?» Quel est ton numéro ? Mais cela devait paraître un peu trop osé. Sexy Dance s'intitulait Step Up, Sex entre amis s'appelait sobrement Friends with Benefits. Et les distributeurs du film No Strings Attached ont dû penser qu'avoir Nathalie Portman en petite culotte sur l'affiche n'était pas suffisant, puisqu'ils ont transformé le titre en Sex Friends, ce qui ne laisse pas trop place à l'imagination. Et sans oublier bien sûr nos amis anglais qui ont vu le film Made in Dunningham, changé en We Want Sex Equality, afin que même un étudiant de Paul Valéry soit en mesure de traduire le titre. Cette tendance ne date pas d'hier. Rappelez-vous les années 90, avec ces monuments du 7e art, Sex Crimes, en réalité qui s'appelait Wild Things, Sex Attitude, qui s'appelait Body Shot, et le fameux Sex Intention, qui ne veut rien dire, puisque le titre était en fait Cruel Intention. Sachant en plus que Sex Intention, c'est écrit sexe en français, avec un E au bout, donc ça ne veut absolument rien dire, même la syntaxe est mauvaise. Et sachant que lorsque l'on a trouvé un joli titre avec sexe dedans, on en fait 3 à la suite. Et cela nous donne de bien jolies franchises pleines d'amour. Sex Crimes 1, 2 et 3, Sex Intention 1, 2 et 3, etc. Donc c'est à croire que l'on prend les jeunes spectateurs pour des créatures en rut et sans encéphale. Le dernier American Pie, par exemple, avait pour sous-titre américain American Pie, les sexes... Pardon. Avez-vous en sous-titre français American Pie, les sexes commandements, alors qu'en réalité, il s'appelle American Pie, The Book of Love. Mm-hmm. Aucun rapport.
Oui, une vision romantique.
Voilà. Eh oui. Et la palme revient probablement à ce merveilleux titre, puisant son inspiration à la fois dans la télé-réalité et dans les fantasmes adolescents. Sex Academy, un chef-d'œuvre américain qui avait pourtant à la base un titre anglais qui évoquait presque le mouvement du surréalisme. This is not another teen movie. Ceci n'est pas un énième film pour adolescents. Et on l'a bêtement transformé en Sex Academy.
Mmh. Alors voilà. ça aurait eu de l'impact en fait en français.
Bien sûr, le titre était beaucoup plus évocateur. C'était un petit peu plus long, mais bon, il y avait quand même possibilité d'en faire quelque chose de bien, quoi.
Oui.
Bon, après, le film était quand même un AV, mais.
Ça, par contre, ça ne change pas. Hein. Titre modifié ou pas, le film vaut ce qu'il vaut. Hein.
Ouais, par ailleurs, tu parlais des films allemands qui étaient un peu. Qui étaient rarement drôles quand ils arrivaient en France. Je suis tombée sur un film de 2001 allemand qui est sorti en France, qui est apparemment un gros navet, qui est l'équivalent d'American Pie, mais allemand, qui s'appelle Mädchen, Mädchen. Donc, les filles.
Enfants, les filles.
Enfin, les petites filles, les jeunes filles. Et bien, en France, ils ont changé ça en Girls and Sex.
Carrément.
Voilà, donc un film allemand, il donne un titre anglais, Girls and Sex, c'est vendeur.
Merci Marine pour toutes ces recherches pointues.
On continuera.
On continue d'ailleurs avec la musique, on fait la petite pause. Qui s'impose dans le cinéma, c'est quoi ?
Eh bien, on reste encore dans du David Lynch avec une chanson extraite du film Mulholland Drive.
Why I love you, the way you hold my hand, your laughing eyes, the way you understand your secret sighs.
Sur Nostalgie, vous êtes toujours sur Divergence FM et c'est Cinérama.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Pain Noir est le premier film en langue catalane de l'histoire à recevoir le Goya du meilleur film. Et c'est pas demain la veille qu'un film occitan recevra un César en France. Mais ça n'est pas la seule récompense qu'il a eue, puisque Pain Noir a reçu 8 autres films sur les 15 catégories dans lesquelles il était nommé. Alors ça n'est pas trop dans la catégorie meilleur décor ou meilleur effet spéciaux que le film a frappé fort, non, c'est plutôt du côté des acteurs. Et dans le tas de breloques remportés, 2 prix peuvent retenir notre attention, puisque ce sont 2 enfants qui ont reçu le Goya de la révélation masculine donc et féminine. Ce qui nous ramène au sujet du film, puisque Pain Nègre pourrait être la vision d'un enfant sur les mensonges et les trahisons des adultes, tout cela sur fond d'après-guerre civile espagnole. Adaptation d'un roman d'Émilie Texidor, fait de monologues intérieurs, il a donc fallu ruser un peu pour amener cette histoire qui commence avec un meurtre mystérieux dans un petit village espagnol. Andréu, jeune garçon d'une famille malheureusement pauvre, qui est le premier à arriver sur les lieux, disant ce qu'il a vu, va mettre la pagaille dans le village et va raviver des secrets qu'on croyait enfouis. Et puis pas de chance, c'est son propre père qui se retrouve en ligne de mire des autorités. Alors bien sûr, il y a une intrigue. À mesure que le film avance, on en apprend de belles sur les uns et les autres. Une sombre histoire va refaire surface et le film va tenter, en même temps que le jeune garçon, de démêler le vrai du faux. Mais c'est plus un drame social, finalement, qu'un film policier. Il y a tout d'abord le monde de l'enfance. Andréou est jeune garçon qui sait peu de choses sur la sexualité et les comportements de sa famille, et donc ses cousins et cousines vont vite lui faire un dessin. Il y a le spectre de la guerre civile, comme dans le labyrinthe de Pan, Sergi Lopez campe un salaud fasciste, genre de type qu'on n'aimerait pas rencontrer tard le soir, et puis un type qui pense qu'un bon communiste, finalement, c'est un communiste mort. Et puis il y a la réalité sociale de l'époque, un village avec une usine, des champs, un clergé vendu aux fascistes, un instituteur sympathique au premier abord mais non sans vice, beaucoup de pauvres et une riche famille. Alors la vie est dure et le traitement est naturaliste avec une lumière qui rend les visages particulièrement blancs. La photographie donc appuie cette peinture de l'après-guerre civile où finalement on cache les plus terribles secrets et qui aux yeux d'un enfant fait éclater toutes les valeurs morales qu'on voudrait bien lui inculquer. Alors le pauvre Andréou ne sait plus qui a fait quoi, qui il doit croire et à partir de quand et ce qui va devenir. Chose étrange qui donne au film un semblant de respiration, le merveilleux vient par moments briser la noirceur de ce qui nous est présenté pour mieux finalement la mettre en relief. Mais on apprécie. Et ainsi l'enfance n'est pas seulement la découverte du mensonge des adultes, la perte petit à petit de l'innocence, mais aussi l'appréhension d'une liberté future. Car à mieux connaître le monde des adultes, on peut rêver de faire changer les choses. Pain noir est réalisé donc par Agusti Villaronga. On retrouve donc un Sergi Lopez implacable et on retrouve donc des enfants qui jouent super bien avec aussi beaucoup de femmes qui jouent très bien. Tout le monde joue bien dans ce film.
Parce que Sergi Lopez joue encore un méchant espagnol.
Oui, comme je l'ai dit. Donc c'est comme dans le labyrinthe de Pan, sauf que là c'est pas un militaire, voilà. Si j'ai bien compris, c'est le maire du village, parce que ça, j'ai pas franchement saisi, mais je crois que c'est le maire du village. Mais comme c'est pendant la période fasciste, forcément, il n'est pas très commode, le Sergi Lopez. Et il s'en sort très bien dans ses rôles-là. Le pain noir, donc, passe à l'Utopia.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
On arrive à la fin de cette émission et on va parler donc de l'agenda de la semaine. Alors tout d'abord, le 28, et c'est ce soir, le cinéma Diagonale propose à 20h une projection du film Laïcité Inch'Allah de Nadia Elfani, suivi d'un débat avec la réalisatrice et l'association Coup de Soleil. Demain, 29, le cinéma Diagonale propose à 20h la projection plein écran du film Le Guépard de Luchino Visconti et la séance est présentée par Monique Carco-Macaire, maître de conférence du... De la section audiovisuelle de Montpellier 3, c'est ça. Hein. Le même jour, le cinéma Nestor Burma et Kossi Sola propose à 20h30 la projection du film Viva Mexico de Nicolas Defossé. Et c'est suivi d'une rencontre avec le réalisateur. Alors, on a déjà reçu Michel Princet de Kossi Sola, qui finalement nous avait parlé de Viva Mexico. C'est l'histoire d'une campagne qui a été menée par le sous-commandant Marcos, qui avait déposé les armes. C'était en 2006. Voilà, donc Nicolas Defossé, français, a suivi cette campagne et donc va nous rapporter un peu l'ambiance de ce qu'est devenu le Mexique actuellement. Et il se trouve que ce matin, en me levant, j'ai écouté les informations et j'ai encore entendu des choses affreuses qui se passent tout autour de la drogue, des narcotrafiquants au Mexique. Voilà, c'est un pays quand même pas forcément tranquille. Le 30 septembre, cette fois-ci, le cinéma Nestor Burma, dans le cadre des Internationales de la guitare, propose à 20h la projection du film « À l'ombre d'un nuage » de Julien Guéret et Nicolas Russo, suivi d'une rencontre avec les réalisateurs et d'un concert de jazz manouche à Frontignan. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Le cinéma Cinémistral propose à 20h la fête du spectateur avec un apéro dînatoire, avec des quiz. Et puis la projection en avant-première de Police, film de Mai Wen, qui sortira troisième semaine d'octobre. Et on a déjà bien au chaud l'interview qu'on a pu faire de Mai Wen, puisqu'elle est venue présenter son film il y a une semaine à Montpellier. Et puis on termine avec le Ciné-Club Biterrois qui propose le 30 septembre à 20h15 au cinéma Montciné une projection débat autour du film Même la pluie de Issiar Bolin. Ainsi s'achève Cinérama. Qu'est-ce qu'il y a ajouté? 24 notes secondes, effectivement, 24 notes secondes qui aujourd'hui parlera de John Barry. John Barry qui est forcément connu pour ses musiques de James Bond, notamment. C'est ça, je ne me trompe pas.
Non, non.
Je suis pas un grand spécialiste de musique au cinéma. Enfin, voilà, c'est pas trop mon rayon. On avait Martin pour ça, mais Martin nous a lâchement lâché. Alors Marine, la semaine prochaine,
on aura donc Antoine, le directeur tout simplement du Diagonal,
qui
nous fera l'honneur, l'immense honneur de venir s'installer en face de nous à cette table pour parler de la projection numérique.
Je crois qu'en 3 ans de cinérama, ce sera bien la première fois où il se déplacera.
Voilà. Incroyable, une avant-première.
Ah oui, c'est une grosse avant-première.
Et moi je vous parlerai du film de Gus Van Sant, de Restless, et de La Polonide.
Eh oui, le fameux film de Gus Van Sant dont tu as laissé la copie chez toi.
Voilà.
Eh oui. Et puis, à noter les sorties hein, aujourd'hui Les Hommes Libres, le film avec Tahar Rahim, qui avait remporté son petit César pour Le Prophète. Voilà, bah ça fait partie des sorties qui promettent. Et on
oui,
concerne, je pense que j'irai voir.
Le nouveau film de Garrel aussi.
Eh oui, oui.
Avec son fils, Un été brûlant, et avec Monica Bellucci.
Oui, voilà, oui. Ça, c'est important. C'est une bonne valeur ajoutée hein, d'avoir Monica Bellucci dans son casting. Et ce film était présenté à la Mostra de Venise. Donc ça aussi, c'est bien de le voir maintenant sur les écrans.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève Cinérama, qui était présenté aujourd'hui par Marine et Vincent, et mise en onde, c'est comme ça qu'on dit, quand on veut faire, dire joliment les choses, par Bruno, qu'on remercie. À la semaine prochaine.
Merci Bruno, à la semaine prochaine.
Cinérama. Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM.